Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM. 100% sport. Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada. 91.9 BPM Sport. Partout au Québec et toujours live sur le YouTube de BPM, t'écoutes le Club du Matin. They wanna get mine. Fais partie du Club de Montréal. 514-790-0919. 1-888-790-0919. T'écoutes le Club du Matin.
Le Club! Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans une autre belle édition du Club du Matin. Olivier Paiement avec vous pour les 4 prochaines heures. Merci d'être là, peu importe où vous êtes, peu importe de où vous nous écoutez. De Montréal au 91.9, Québec 100.9, Gatineau 96.5, sur l'application mobile de BPM Sport ou encore sur notre diffusion en direct sur YouTube. Et comme à l'habitude, ben, je suis avec mon acolyte Hugo Reich. Comment ça va, Hugo?
Salut, Olivier, ça va super bien, toi?
Ça va très bien, merci. Très belle journée, enfin, là, ça a fait du bien, du gros, gros, gros soleil. Faisait chaud. Ben, ça a donné droit à du tennis à l'Omnium Banque Nationale. Mm-hmm. Pas nécessairement beaucoup de bonnes nouvelles de ce côté-là. On va y revenir un peu plus tard à l'émission. On a tout un show aujourd'hui. Très, très, très chargé d'entrée de jeu. On va jouer un petit peu à Cupidon, Hugo et moi. Je sais que c'est vraiment pas le temps de la Saint-Valentin, mais pas grave. Il y a des agents libres qui n'ont toujours pas signé. Il y a des joueurs qui devraient être échangés bientôt ou qui pourraient être échangés bientôt, qui n'ont toujours pas été transigés. Ben, Hugo et moi, on va y aller des meilleures destinations possibles pour ces joueurs-là. Ça s'en vient d'entrée de jeu à l'émission. On va parler évidemment de NFL. Stephon Diggs qui a signé avec les Commanders de Washington. Aaron Donald a obtenu un essai avec les Rams hier. On dirait vraiment que Donald va se joindre à cette super équipe qu'ils sont en train de bâtir du côté de Los Angeles. On va revenir sur l'actualité dans le baseball majeur. Ça a été toute une journée hier pour les Blue Jays notamment, mais on a eu le droit à un choc de titans là, entre les deux favoris pour le titre de joueur le plus utile dans la nationale, Shohei Ohtani et Pete Crow Armstrong. Nicolas Saint-Pierre va venir faire son tour comme à l'habitude. Marco D'Amico va être là aussi. On a une entrevue aussi avec un joueur de hockey, un Québécois, Maverick Lamoureux. Ça en vient dans à peu près 2 heures. Maverick, qui fait partie de l'organisation du Mammoth de Utah, a joué un petit peu aussi dans la Ligue américaine avec eux l'an passé, fait que j'ai hâte d'y parler. T'sais, c'est un jeune joueur qui fait partie de ce groupe-là dans l'organisation du Mammoth. Il cogne à la porte à temps plein de la Ligue nationale de hockey. Il va nous parler de comment ça se passe son été, de comment ça se passe le hockey à Utah, la vibe dans la ville, comment l'énergie elle est dans le vestiaire et tout ça, la culture qu'ils ont réussi à bâtir, Jean-Sébastien D. aussi s'amène un peu plus tard à l'émission. Passez une belle journée hier, mon Hugo.
Oui, monsieur. Il faisait beau hier, donc on en a profité. On est allé jouer au baseball un peu. On est allé frapper des balles. Ouais, mais tu vois, ça fait longtemps que je l'avais pas fait que j'étais content, puis j'ai eu un petit incident de spikeball, je sais pas si je te l'avais compté.
Non.
Je me suis foulé un orteil en fin de semaine au spikeball.
Ah, ça c'est très viril.
Ouais, donc, ouais, avoue, hein, c'est la meilleure blessure au monde, mais bref, là, je peux mettre un peu plus de poids dessus, je peux être plus actif sur mes pieds, donc j'ai décidé de faire ça, et là, aujourd'hui, il va faire moins beau en fin de journée, donc c'est sûr que je m'en vais voir un film au cinéma, et là, j'hésite entre 2 films. Soit aller voir The Odyssey, que j'ai pas vu encore, j'ai eu juste des bons commentaires, mm-hmm. ou Spider-Man.
Écoute, moi j'ai vu l'Odyssée, j'ai adoré, je l'avais raconté la semaine passée, je suis vraiment pas un gars de films de super-héros. Fait que non, Spider-Man, pas tant mon truc. Fait que je te conseille d'aller voir l'Odyssée.
Okay.
Peut-être que les gens peuvent nous donner un coup de main là, parce que c'est vraiment les deux gros films de l'heure en ce moment. Là, ça bat des records au box-office. Ça fait longtemps en fait qu'il y a eu deux films en même temps au box-office qui ont eu autant de succès. Il faut retourner avant la pandémie. Fait que les cinémas sont remplis, c'est cool. Si jamais vous aimez Spider-Man, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, les super-héros, tout ce qui est fantastique, là,
c'est pas ton
quoi
affaire.
Que je sais que l'Odyssée aussi, c'est de la mythologie, là, fait que mon argument tient pas vraiment. Mais moi, je te conseille d'aller voir l'Odyssée.
Parfait, je prends ça en considération. Toi, c'était comment ta journée hier?
Ça a bien été, mais il y a peut-être un pigeon qui est mort à cause de moi.
Hein?
Je te raconte ça.
Ouais, vas-y.
Avant que vous m'accusiez de cruauté animale, là. Donc hier, Ben, je reviens chez moi, là, en soirée. Puis je sors dehors pour m'installer parce que je voulais lire sur mon balcon. Puis là, je vois qu'il y a un pigeon qui est sur la balustrade, sur la rampe de mon balcon. Ouais. Je suis comme, OK, va-t'en, pigeon, là, tu sais. Puis il part pas. J'essaie d'y faire peur, j'essaie de le faire dégager, il bouge pas.
Okay.
Il me regarde, il dandine un petit peu, mais il veut pas partir s'envoler, ce qui est quand même surprenant parce qu'on s'entend que c'est assez peureux, les pigeons. Puis moi, j'aime pas ça. Là. Ma mère, elle m'a toujours dit que les pigeons, c'est comme des rats qui volent. Là. Elle a peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ça fait en sorte qu'aujourd'hui...
On sait pas que ça peut transporter.
Fait que là, exactement. Fait que là, je me dis, bon, je vais trouver une autre façon de le faire déguerpir.
Ouais.
Je suis allé chercher un push-push, là, je me mets à l'arroser. Il part toujours pas.
Ben voyons donc.
Je suis comme, OK, ben, il y a peut-être quelque chose d'abord.
Ouais.
Peut-être une aile qui est brisée ou quelque chose. Il est peut-être en douleur, peu importe. Parce que, tu sais, il bougeait avec ses pattes puis il essayait un petit peu de voler, mais il avait pas l'air d'être capable.
Tu sais.
Je suis comme, OK, ben peut-être que je vais essayer de l'aider à la place de le forcer à fuir.
T'es gentil.
Fait que là, ma blonde, elle arrive un peu plus tard, elle finit de travailler. Puis on est comme, bon, OK, on va mettre des gants, on va le prendre, puis peut-être qu'on va le mettre dans une boîte, on va lui donner de l'eau, puis après un certain temps. Il va être capable de partir. Évidemment, moi, je ne l'ai pas pris parce que ça me dégoûte.
Ouais.
Fait que là, ma blonde, elle met des gants. Puis à la seconde où elle arrive pour le prendre, il part, il s'envole. On est comme, ah, bonne nouvelle. Puis là, il commence à faire noir, mais je te dirais qu'à peu près... Puis il s'envole de l'autre côté de la ruelle, vers la maison de l'autre bord. À peu près 3 secondes plus tard, on entend un immense... BAM! On n'a pas vu ce qui s'est passé exactement parce qu'il faisait noir.
Oh non.
Mais oh avec non. Ce son-là, je m'imagine qu'il a peut-être foncé dans un mur ou quelque chose, puis que le pigeon a peut-être pas survécu. Fait qu'on a peut-être précipité quelque chose qui était pas supposé.
Ça, c'est fou, faire. Hein. On dirait que depuis une semaine, t'es comme un refuge à animal. T'essaies de prendre soin des animaux errants, puis là, oh, finalement,
t'adopter un chien. Ça se passe pas toujours bien, là.
Aïe, aïe.
Ouais.
Ouais. Pauvre pigeon.
Fait que si jamais vous trouvez un pigeon, c'est peut-être à cause de moi.
OK. En tout cas. On va garder l'œil ouvert.
Exactement.
Par rapport à ça.
OK, assez pas... On parle beaucoup d'animaux,
on
hein,
parle
pour
beaucoup
commencer.
D'animaux. Hein. C'est thématique animale cette semaine, c'est correct.
C'est correct.
Ben ouais.
Puis ça s'est bien passé avec mon nouveau chat hier. Il commence à s'acclimater.
Ouais.
Moins stressé.
T'as moins réveillé cette nuit?
Il m'a vraiment moins... Ben, on a fermé la porte.
OK, bon, c'est ça.
Ben, tu sais, là, il commence à nous coller et tout. Ça se passe très, très bien.
Très cool.
Ce qui se passe bien aussi, c'est que ça part pour l'édition du 6 août 2026 dans le Club du Matin. Hier, dans la Gazette, je lisais un texte de Herb Zurkowski où il parlait du dossier de Patrick Laine. Parce que on est quand même le 6 août et Patrick Laine a toujours pas signé de contrat. En soi, c'est pas si surprenant que ça, étant donné son historique de blessures. Il a seulement joué 5 matchs l'an passé et Patrick Laine s'est blessé essentiellement chaque saison depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey. En fait, il a disputé 2 saisons complètes, c'est tout. 3 saisons complètes, pardon. Bref, c'est pas si surprenant en soi, surtout que c'est un joueur assez unidimensionnel. Il peut t'aider sur le jeu de puissance, à part ça, pas tant que ça. Puis Zurkowski a noté que depuis le début d'été, il y a quand même plusieurs équipes qui ont été liées à Patrick Laine. Les Rangers, le Wild, le Lightning, les Leafs, les Flyers, puis... Quand tu y penses, c'est quand même toutes des destinations qui ont du sens parce que il coûterait pas cher. Le risque est pas immense. Tu sais, tu l'invites à ton camp ou tu donnes un contrat d'un an. Si ça marche pas, ben tant pis. Si ça marche, tant mieux. On connaît le potentiel de Patrick Laine. Il a quand même marqué 20 buts en 52 matchs il y a 2 ans avec le Canadien. Mais ça m'a donné une idée, Hugo. Parce qu'il reste encore une couple de joueurs autonomes. Puis il y a une couple de joueurs qui reviennent régulièrement dans les rumeurs de transactions. On va jouer au matchmaker. On va matcher des joueurs avec des équipes. Peut-être que c'est l'équipe sur laquelle ils sont déjà puis qu'ils vont juste rester là. Mais peut-être aussi qu'on va y aller de destinations différentes. Fait, commençons avec Patrick Laine parce que c'est lui qui m'a inspiré le sujet. Où est-ce que tu verrais Patrick Laine s'entendre d'ici le début de la saison?
Ben écoute, moi j'ai considéré des options puis je me disais quelle équipe qui aurait besoin d'un bon ailier point. C'est un ailier qui a quand même un facteur élite qui pourrait contribuer. Et je sais que ça a peut-être moins bien terminé à son premier passage dans cette équipe-là, mais je me dis, les Jets en ce moment ont rien à perdre.
Oh.
Les Jets sont dans une phase un peu de reconstruction, sont dans une phase de quête identitaire. pourquoi pas renouer avec Patrick Laine et lui donner un rôle offensif intéressant? Parce que là, je regardais la composition des trios.
Ils ont besoin de punch en attaque, là.
Ils ont absolument rien.
Le premier trio est excellent. Scheifele, Vilardi, Connor.
Ça, on touche pas à
chaque
ça.
Année, là, c'est un des trios les plus productifs de la Ligue nationale.
Exact.
Après, ça se gâte. Puis c'est pour ça que les Jets, l'an passé, ils en ont arraché.
Exact. Tu sais, Adam Laurie, c'est ton deuxième centre présentement. Tu vas mettre beaucoup d'espoir sur un Viggo Björk qui arrive. Mais au niveau de tes ailiers, c'est pas Alex Iafallo, Nino Niederreiter qui va être ton talent offensif, ton support offensif sur un deuxième trio. Ils sont capables d'apporter des choses. Mais je crois que Patrick Laine, dans un environnement qu'il connaît, où il est confortable, sous une nouvelle direction un peu, ben ça peut il peut peut-être retrouver les succès qu'il y avait avant.
Sur papier, ça a du sens. Tu vois, la seule chose que je me dis, c'est on a entendu beaucoup de choses avec Patrick Laine comme quoi c'était pas nécessairement facile, c'était pas nécessairement le gars qui était le plus intégré dans le vestiaire, que ce soit à Columbus, que ce soit à Winnipeg, qu'il y avait d'autres coéquipiers qui étaient pas nécessairement super accueillants vers lui. Est-ce que ces joueurs-là sont encore avec les Jets? Je le sais pas.
Ouais.
Est-ce que c'est un problème qui est dans le passé, qu'on va être capable peut-être de passer à autre chose? Ce serait mon seul bémol, mais t'as raison que sur papier, ce serait une acquisition intéressante, puis ce serait une belle histoire aussi.
C'est vrai.
Pour les Jets de Winnipeg. Moi, j'y vais avec une équipe qui a quand même été pas mal liée à Patrick Laine dans les derniers mois, les Flyers de Philadelphie. Eux aussi, ils ont besoin de punch en attaque. Ça a pas marché avec Leo Carlson. Ils veulent ajouter des joueurs qui vont être capables de produire. Les Flyers ont quelques jeunes, ont quelques vétérans établis, mais t'as quand même encore plusieurs trous sur l'alignement. Il y aurait assurément une place sur lui, peut-être même sur la première vague de l'avantage numérique, Patrick Laine. Alors, je verrais un fit là, puis j'ai même l'impression que les couleurs des Flyers, ça irait bien.
Mais c'est correct, ça fait partie des critères du matchmaking.
Ben oui, exactement.
Mais ouais, t'as raison, moi aussi, c'est des équipes qui vont vraiment créer des belles opportunités pour des joueurs comme ça, parce que les Flyers aussi, c'est une équipe qui s'est rendue en séries éliminatoires l'année dernière.
Mais que c'est pas garanti qu'ils vont y retourner.
Mais que c'est pas garanti qu'ils reviennent. Par contre, ça a été une équipe avec un environnement propice pour que certains joueurs connaissent une effervescence, par exemple Trevor Zegras, par exemple, qui a connu une de ses meilleures, sinon sa meilleure saison en carrière. Donc, ça pourrait être propice à un nouveau départ pour Patrick Laine, effectivement.
Ouais, puis écoute, moi je pense qu'il va se faire donner une dernière chance dans la LNH, mais si jamais ça se passe pas bien, tu sais, ça pourrait être un essai, ça se peut que ce soit l'Europe ou même la retraite. La prochaine option pour lui. T'as parlé des Jets de Winnipeg. On y va avec leur gardien de but. Connor Hellebuck revient beaucoup dans les rumeurs de transactions. Il voudrait potentiellement quitter la ville de Winnipeg. On parle peut-être du meilleur gardien sur toute la planète hockey. Je comprends que ça a été plus difficile pour lui l'an passé, mais quand même, il est encore très, très bon. Où est-ce que tu verrais Connor Hellebuck qui a été changé, Hugo?
Ben, ça a été une équipe qui a été liée à Connor Hellebuck parmi les rumeurs, là, parmi les nombreuses rumeurs. Moi, je le vois aller avec les Devils du New Jersey.
Ça a du sens, ils n'ont pas de gardien.
Exactement.
C'est Jake Allen le numéro 1 en ce moment.
Et on s'entend, les Devils ont quand même... T'sais, on a de la place sur la masse pour Connor Hellebuck. Je pense que c'est un bon contexte avec une équipe qui est quand même sur la pente ascendante avec probablement des changements qui s'en viennent dans les prochaines années, mais en même temps, être un gardien de but, tu vois aller les Isher, les Hughes, les Dawson Mercer qui montent, les Jesper Bratt, c'est quand même assez intéressant. C'est aussi un gardien qui a fait face à beaucoup de lancers l'année dernière avec une brigade défensive des Jets qui avait certaines lacunes. Tu regardes la brigade défensive des Devils présentement, oui, c'est pas la meilleure de la Ligue nationale, ça, je vous le donne, mais c'est une défensive qui est beaucoup plus hermétique que celle des Jets dans l'ensemble.
Ouais.
Il y a peut-être moins de gros noms intéressants, mais un Brett Pesci, quand c'est pas blessé, ça referme bien les espaces. Brendan Dillon, même chose, un bon shutdown. Donc, ça pourrait être propice pour les Devils d'avoir les services de Connor.
C'est parce qu'en ce moment, leurs deux gardiens, c'est Jake Allen et David Riddick. T'sais, ils ont échangé Jakob Markstrom. Je peux pas croire que Sonny Mehta, qui espère ramener les Devils en série, pense vraiment que c'est avec ce duo de gardiens qu'il va être capable de le faire. Clairement, il se garde la porte ouverte à une transaction potentielle, que ce soit avec Hellebuck, que ce soit avec un autre gardien, ou peu importe. Moi, j'y vais avec les Sabres de Buffalo, qui, un petit peu comme ben, les Devils, ont pas de numéro un clair et établi. T'sais, en série l'an passé, on jouait un petit peu au yo-yo. Avec Ukko-Pekka Luukkonen, bien évidemment. Bon, là, Devin Levi a été échangé, mais c'était Alex Lyon aussi qui se partageait le filet avec Ukko-Pekka Luukkonen. Ils auraient besoin de ça, les Sabres. T'sais, ils ont quand même perdu Byram et Tuck pendant la saison morte. Tu veux redonner un boost de confiance à ton équipe. Ça n'a peut-être pas été la saison morte idéale pour eux, mais c'est une équipe qui a du talent. Ajoute Hellebuck aux Sabres, puis remonte quasiment au point d'être pas loin favori dans l'Atlantique, là, ou peut-être ben, tout juste derrière les Panthers de la Floride. Ce serait une très bonne acquisition. Ils ont plusieurs bons jeunes qu'ils pourraient donner aux Jets. Ils ont leur choix au repêchage. Ils ont de l'espace quand même en ce moment sous la masse salariale, les Sabres de Buffalo. Le gars était à Winnipeg. Rendu là Buffalo, ça peut pas être si pire que ça.
C'est pas, ouais, non, c'est pas
une destination qui est pire.
C'est vrai, t'as raison, mais puis le discours a été quand même similaire l'année dernière. Qu'est-ce que les Sabres pourraient être avec un bon gardien de but? Et là, ils auraient la possibilité d'en avoir un en corner of the box s'ils décident de joindre à l'équipe. Et effectivement, comme tu dis, l'équipe peut être considérée dans le top 5 de la Ligue, là, juste avec ça, là, parce qu'ils ont un essor offensif important, puis ça viendrait juste solidifier la brigade défensive.
Un autre joueur qui revient énormément dans les rumeurs, est-ce qu'il va être échangé? Est-ce qu'il ne va pas être échangé? Ça reste que clairement, il est pas content. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas mentionné son nom, fait qu'on était dû. Kirill Marchenko.
Ouais, ça c'est intéressant, Kirill Marchenko. Écoute, je suis allé d'une proposition un peu champ gauche, mais je pense que c'est une place où Kirill Marchenko pourrait bien fitter justement à cause du manque d'ailier, du manque de profondeur là.
Le Canadien?
Non.
Hein?
Les Prédateurs de Nashville.
Hein?
Ouais. Parce qu'à ce moment, l'alignement proposé par Daily Faceoff, on s'entend que ça risque de pas être ça, mais c'est Luke Evangelista sur le premier trio. Et je pense que Kirill Marchenko, qui s'en vient à droite de Ryan O'Reilly, Steven Stamkos, ça viendrait solidifier le top 6. Mais aussi, les Preds ont quand même des espoirs intéressants.
Tu pourrais échanger ouais, ils ont repêché haut dans les dernières années.
Tu sais, Matthew Wood, Brady Martin, des gars comme ça, qui c'est des joueurs importants, mais si tu fais l'acquisition d'un gars comme Marchenko, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Maintenant, c'est de voir comment qu'on peut faire de la place sur la masse salariale, parce qu'on a quand même des gros contrats du côté de Nashville.
Puis est-ce qu'il voudrait aller à Nashville?
Exactement.
Tu sais, le gars, il est tanné de jouer à Columbus parce que l'équipe, elle performe pas, puis il est peut-être pas content avec ce qui se passe en ce moment. Tu tends mieux avec les Prédateurs, par contre.
Ben, c'est ça. C'est à savoir. Tu sais, Nashville, on parle de 40 millions sous la masse en 27-28. C'est là que ça va être très intéressant parce ouais. que ça va être l'heure de la signature. Mais on s'entend, Nashville, c'est un marché très cool. Les joueurs aiment aller jouer là.
Ben
par
oui.
exemple, Matt Duchesne. Matt Duchesne, ça a été, je pense, le gars qui a vanté Nashville le plus de toute sa vie.
Il va être payé par l'Office du tourisme de Nashville.
Exact. Mais, tu sais, c'est une place de fun. C'est une place où les gens ont pas de pression, ouais. mais que la passion pour le sport est présente. Donc, je pense que ça pourrait être une situation intéressante pour Kirill Marchenko à considérer, au moins.
Ça dépend un petit peu de c'est quoi qu'il veut, lui. T'sais, s'il veut juste avoir le plus d'argent possible puis quitter Columbus, Nashville est une bonne option. S'il veut être avec une équipe peut-être qui va aspirer à gagner la Coupe dans les prochaines années, ça en est peut-être un petit peu moins, ouais. mais j'aime quand même ça. Hugo, moi, j'y vais avec le Mammoth de Utah parce qu'on le sait, Utah, ils sont hyper agressifs à peu près à chaque fois qu'il y a un nom qui sort sur le marché. Le nom de Utah revient, c'est une équipe qui a de l'espace sous la masse, c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts qu'ils pourraient donner. On a des bons espoirs, les Caleb Desnoyers, les TJ Ginla. Oui, ils ont déjà beaucoup d'attaquants, mais pas nécessairement des joueurs dans le style de Kirill Marchenko. C'est une équipe qui, un peu comme le Canadien Utah, on a des joueurs qui sont un peu plus petits, très rapides, très habiles, c'est le style de jeu qu'on aime. Ben, Kirill Marchenko, ce serait un bon complément. Il rentrerait un petit peu dans le noyau de joueurs avec son âge. T'as déjà une coupe de Russes là-bas, notamment Mihai Sergachev. Moi, je verrais très bien Kirill Marchenko avec l'uniforme du Mammoth.
Ben oui. Ouais, c'est vraiment un environnement propice aussi. Surtout, comme tu dis, s'il veut se joindre à une équipe qui veut faire un push, parce que le Mammoth est vraiment rendu là à pousser pour les séries éliminatoires, essayer de se rendre le plus loin possible. Et Marchenko serait définitivement un facteur direct dans les succès de l'équipe. Et se sentir important dans une organisation, c'est la plus grande fierté d'un joueur. S'il est capable d'apporter sa touche offensive, c'est sûr et certain qu'il est vraiment Mammoth. Ça, c'est sûr.
Un joueur qui aurait demandé une transaction dans les dernières semaines, ou du moins lui et son équipe, ce serait entendu que OK, il est temps de passer à autre chose. Shane Wright, ouais. encore très très jeune. Ça se passe pas nécessairement comme prévu pour lui avec le Kraken de Seattle. Où est-ce que tu le verrais tenter de relancer sa carrière, Shane Wright?
OK. Ça aussi, proposition qui est un peu plus large, mais quand même. Je pense que Shane Wright pourrait être un fit avec les Red Wings de Détroit.
Ah, c'est pas fou, ça!
Parce que, avec toute la saga Dylan Larkin présentement, on sait pas quelle sera l'approche de l'équipe avec Larkin, évidemment. Et tu regardes la ligne de centre des Red Wings, ça fait pitié.
Écoute, en ce moment, c'est Larkin, Kopp, Comfort, Rasmussen.
Exact.
C'est vieux, c'est pas hyper talentueux non plus là au niveau
exact.
Attaque à part Larkin. Ce serait exact. Un beau pari pour les Red Wings, Shane Wright.
C'est ça. Et mon point est le suivant, du fait que si ça marche pas avec Larkin, évidemment l'équipe devra prendre un pas de recul. Donc, tant qu'à prendre un pas de recul, pourquoi t'essaies pas de prendre une chance sur un top 4 au total, qui a beaucoup de talent, qui est prometteur,
qui te coûterait sûrement plus de temps cher que ça à aller
exactement,
chercher.
Exactement, et qui est à la recherche d'un nouvel environnement pour connaître du succès. Moi, je pense que ça serait un fit parfait.
J'aime ça. Moi, dans le cas de Shane Wright, j'y vais avec les Penguins de Pittsburgh. C'est une équipe qui a beaucoup fait ça dans les dernières années. Tenter de relancer la carrière de joueur. Ils l'ont fait avec Yegor Shinaov, que ça a été un coup de circuit là, depuis qu'il a quitté les Blue Jackets. On voit vraiment toute l'étendue de son talent. Anthony Mantha aussi, la saison dernière, qui a relancé sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh. On dirait que c'est un environnement présentement qui est propice à ça. T'sais, là, ils se sont essayés aussi avec Nick Robertson cet été. Qu'est-ce que ça va donner? On verra. Chris Letang aussi, Eric Carlson, d'une certaine façon, a relancé aussi sa carrière avec les Penguins. Ouais. C'est ce qu'il vise en ce moment, Kyle Dubas. Il veut pas nécessairement payer trop cher pour aller chercher des joueurs, mais il vise des joueurs de talent qui sont peut-être sous-évalués pour le moment. Mais lui, il se dit que si mon pari rapporte, ça pourrait fonctionner. Je verrais un fit naturel avec Shane Wright chez les Penguins de Pittsburgh.
Ouais,
apprendre de Crosby et Malkin aussi, c'est pas pire. Là. C'est un jeune centre.
Ouais, exactement. Je pense aussi qu'au niveau de l'éthique de travail, c'est un environnement propice. Shane Wright qui semble juste pas content présentement, mais au travers de sa carrière, a quand même démontré que, tu sais, dans le junior et tout, que c'était un leader qui était capable de mener une équipe vers la victoire. Donc ouais, ça peut être intéressant. Les Penguins de Pittsburgh, encore une fois, des vétérans qui sont là, qui ont connu du succès, c'est des environnements propices pour relancer une carrière aussi. Ouais, vraiment.
On va y aller d'un dernier nom parce que le temps file, il nous en reste plein, fait qu'on fera les autres demain au pire.
Pas de problème.
Là, vous allez trouver ça un petit peu champ gauche comme nom, mais moi je vous nomme Eli Tolvanen. Qui fait partie du groupe de joueurs agents libres sans restriction qui sont encore disponibles sur le marché. Quand je parle d'un gars qui a relancé sa carrière, lui, il l'a quand même fait. Ça va être un haut choix au repêchage des Prédateurs de Nashville. Ça se passait correct, peut-être sans plus du côté de Nashville. Peut-être que son développement décevait un peu. Il avait été mis au balotage. Et là, il a vraiment relancé sa carrière par la suite avec le Kraken de Seattle. Il vient de connaître des saisons de 41, 35 et 36 points. Où est-ce que tu le verrais signer, Eli Tolvanen?
Donc, Eli Tolvanen, j'ai décidé d'y aller avec les Bruins de Boston. Parce que je trouve que Boston, c'est encore une fois une équipe de philosophie. Eli Tolvanen a un élément très, très, très élite dans son jeu. Il a un excellent lancer. C'est un gars qui peut marquer des buts. Ce qui fait en sorte que tu regardes le top 6 présentement des Bruins de Boston et tu te dis qu'avec cette mentalité-là, Eli Tolvanen, sur un deuxième trio, avec Elias Lindholm et Morgan Geekie, disons, ben c'est des gars. Lindholm qui a une excellente vision, Geekie qui a prouvé qu'il était capable de marquer des buts, et Tolvanen qui préfère aller ses élans offensifs en complétant une ligne de la sorte. On sait aussi, les Bruins, c'est une mentalité, c'est un effet de groupe. Donc, Tolvanen ne va pas être le gars qui va mener son trio, c'est pas le gars qui va avoir un impact direct. Par contre, c'est un gars qui peut bien se mouler en masse. Comme tu l'as dit, a réussi à connaître du succès avec les Kraken de Seattle, probablement l'équipe la plus beige de la Ligue nationale.
Oui, faut le faire.
Donc, si t'es capable de te joindre à un groupe qui a beaucoup de couleurs, qui va pas dépenser beaucoup d'argent à ton égard, et que tu peux contribuer avec ton fighter offensif élite et ton lancé, je verrais pas comment ça serait pas un bon fit.
J'aime ça. Tu vois, moi, je me lance, là. Je vais nommer le Canadien de Montréal.
Oh boy.
Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en ce moment, le Canadien a juste 12 attaquants qui sont établis dans la Ligue nationale de hockey. Oui, un jeune à la Jack Eye, à la Beck ou peu importe, pourrait gagner une place au camp. Mais pour moi, pour qu'un jeune gagne sa place, il faut qu'il la mérite. Il faut qu'il aille la chercher. Tu peux pas prendre pour acquis qu'un jeune joueur comme ça va se tailler un poste parce que ça se peut qu'il te déçoit, ça se peut qu'il ne réponde pas à tes attentes. Bref, j'aimerais voir le Canadien signer un vétéran d'ici la fin de l'été pour au moins avoir cette flexibilité-là, cette profondeur-là. Pourquoi Eli Tolvanen, tu l'as dit, Hugo, c'est quelqu'un qui a un excellent lancer, capable quand même de générer de l'attaque. Malgré son plus petit gabarit, juste à peu près 5 et 10, 180 livres,
ouais.
Il est très impliqué physiquement. Il frappe beaucoup Eli Tolvanen. C'est quand même quelqu'un qui récolte pas loin de 200 mises en échec par année. Ça, ça aurait été parmi les meneurs du Canadien la saison passée. Fait quand même... T'sais, on peut penser un petit peu à un genre de Zachary Bolduc des pauvres, peut-être. Là, ou quelque...
Moi, ouais, c'est une bonne comparaison.
Dans ce moule-là.
Ben oui.
Fait que moi, j'aimerais ça. Écoute, tu prends une chance sur lui à ce stade-ci de l'été. Ça coûtera pas cher du tout. Puis au pire, ça marche pas. Ça marche pas, mais t'auras essayé au moins de quoi. Puis t'auras au moins... l'assurance qu'au pire, ton 12-13e attaquant, c'est un joueur déjà établi dans la LNH à la place d'un jeune peut-être qui a moins fait ses preuves.
Ouais, puis c'est pas comme si le Canadien prenait pas de chance sur des joueurs avec des touches élites. Justement, on l'a vu avec Patrick Laine. Je pense que, rendu là, c'est un risque calculé du côté de Kent Hughes. Ça peut être un bel ajout, effectivement. Puis avec un atout comme ça, ça fait en sorte que tu as un filet protecteur pour... tes unités spéciales.
Ouais.
On fait le comparatif, mettons, avec Alexandre Texier. Alexandre Texier a une bonne vision, il a un bon lancer, mais ça va pas être le gars qui va nécessairement jouer sur ton avantage numérique. Par contre, si t'as besoin de lui, il va être là.
Exactement.
Et Tolvanen, ben, tu te rajoutes un lancer élite. Donc, c'est sûr que ça va être une police d'assurance à quelque part.
Écoute, il nous reste une couple de noms. Alexander Nikishin, Dylan Larkin, Arber Jackey, Elias Pettersson, mais on a plus de temps. Faut faire la pause. Fait qu'on va se les garder pour demain. On va peut-être en trouver d'autres aussi. C'était le fun quand même de jouer.
Ouais, c'était cool.
On se croirait à la Saint-Valentin.
On est des bons cupidons.
On est des très bons cupidons.
Honnêtement.
J'ai l'impression que t'es du genre, toi, à matcher les gens, Hugo.
J'adore ça, faire ça.
Exact, je le savais.
Et voilà.
Fait qu'on va prendre une pause au retour. C'est le Focus NFL. Ça brasse. Stephon Diggs qui signe avec les Commanders. Aaron Donald se rapproche des Rams de Los Angeles. Et les entraîneurs dont le siège commence à être le plus chaud. On parle de tout ça dans deux minutes.
Pour mettre du piquant dans vos enterrements de vie de garçon, vos anniversaires ou vos réunions d'après-match de hockey, dirigez-vous chez Paré et célébrez à fond en compagnie des plus belles filles de Montréal. De Paris à Moscou, de New York à Sydney, chez Paré jouit d'une réputation enviable qui dépasse nos frontières. Découvrez-en plus sur nos comptes Instagram et Facebook et réservez vite votre table. Les plus chaudes nuits de Montréal se déroulent chez Paris. Tous les jours, jusqu'à 3 heures du matin, au 1258 Stanley.
Il existe une version de vous qui se lance, qui échange ses points aéroplan aujourd'hui, qui réserve le week-end dont vous parlerez pendant des semaines, qui encourage l'équipe de chez nous partout, qui arrête pour son latté chaque matin, qui fait finalement le voyage dont vous parlez depuis des années, qui échange ses points pour louer la décapotable, qui réserve la chambre avec vue. La version de vous qui a juste... arrêtez d'attendre. Avec les points Aéroplan, ça devient possible. Échangez vos points Aéroplan dès maintenant sur aircanada.com. Les conditions s'appliquent.
Contracteur peintre, gagnez du temps et de l'argent avec Chez le peintre, l'entrepôt de peinture Sico Expert. Ça fait 50 ans qu'on le chante.
Sico, Sico par-ci, Sico, Sico par-là. On donne tout ça, Sico, Sico par-ci, par-là.
Un stock immense, des prix imbattables et une expertise sur mesure pour vos chantiers. Besoin de peinture là, maintenant? Nous, on est constamment en série. On livre dans un rayon de 75 km avec nos 6 camions prêts à partir. Chez le peintre, prix, choix, expertise.
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1$ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participants, taxe en suit, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Le 15 août, à 19h30, on se retrouve au stade Saputo. Le CF Montréal reçoit le DC United. Notre équipe, notre ville, notre match. Viens vivre l'émotion en direct des gradins. Billets disponibles au cfmontréal.com.
Venez goûter l'Italie. Découvrez Trebbiano au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Menu du midi, du soir, spécialité authentique, pâtes, pizza, risotto et filet mignon. Réservez vite ce restaurant trebbiano.ca.
Pas besoin de 99 raisons. Une seule suffit. Bet99.net, le sportsbook et casino en ligne qui fait le plus jaser dans la province. La plus grande sélection de marchés et un service client local. Bet99.net, pour les vrais fans d'ici. Site de jeu en ligne gratuit seulement. Jouez responsablement.
MAP Hydration, la boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer, récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com.
De vendredi à dimanche, obtenez 20 fois les points chez Pharmaprix. Ouvrez l'appli PC Optimum, magasinez, scannez et obtenez 30% de remise en points. Conditions dans l'appli.
Rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Le Club du matin. Jusqu'à 10h sur BPM Sport.
Ready?
Let's go! Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
On connaît enfin la nouvelle équipe de Stephon Diggs hier. On a appris qu'il a signé un contrat d'un an et 12 millions de dollars avec les Commanders de Washington. C'est un petit peu comme un retour à la maison pour lui parce que c'est quelqu'un qui est natif de la région de Washington, a joué à l'Université du Maryland aussi. J'aime beaucoup cette signature-là. J'en parlais quand même dans les derniers jours. Il manque de profondeur au groupe de receveurs des Commanders présentement. Terry McLaurin est bon, il a peut-être un petit peu ralenti. Alors là, au moins, avec l'ajout de Diggs, t'as McLaurin d'un bord, Diggs de l'autre, tu t'assures d'avoir deux bons receveurs de passe avec Jaden Daniels. Est-ce que c'est un duo avec des gars qui sont élites? Non, ils sont un peu plus vieux. Mais quand même, t'as deux receveurs que je dirais à ce stade-ci de leur carrière sont peut-être des 2A ou peut-être 1B dans le cas de McLaurin, 1A dans le cas de Stephon Diggs. C'est quelqu'un qui a rebondi l'an passé, après une saison plus difficile avec les Texans de Houston, quand même eu plus de 1000 verges avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J'aime ça.
Ouais, c'est un gars aussi qui prouve que dans un bon environnement, justement, ça peut être concluant. C'est encore un receveur super créatif, super rapide, explosif. Et justement, t'as parlé hier, Jaden Daniels a besoin d'atouts, a besoin de support. Ça va être exactement ça. On va essayer de créer un petit one-two punch peut-être de ce côté-là avec McLaurin qui est là en support si jamais il y a quelque chose qui arrive.
La seule chose qu'on sait avec Stephon Diggs, c'est que des fois, le caractère est un peu questionnable. C'est un receveur de passe qui rentre dans la catégorie diva, a eu aussi quelques enjeux légaux à l'extérieur du terrain dans la dernière année. On verra comment il débarque dans un nouvel environnement comme ça. Puis maintenant, on peut officiellement aussi mettre une croix sur l'idée de voir Brandon Ayuk joindre les Commanders. Là, avec cette signature-là, ils ont pas besoin de lui, puis ils ont surtout pas besoin de tous les maux de tête que Brandon Ayuk pourrait leur donner. Ouais. Parlant d'un gars qui est pas un maux de tête, Aaron Donald, lui, c'est tout le contraire de ça. Hier, il a officiellement disputé un essai professionnel avec les Rams. C'était pas nécessairement une évaluation pour que les coachs voient s'il est bon ou non. Là. On s'entend qu'Aaron Donald, même si ça fait une couple d'années qu'il joue plus, même s'il a 35 ans, il est en forme.
Il est encore très solide.
On dit que c'est plus parce que Donald voulait un petit peu voir comment il se sentait avec les épaulettes, avec le casque et tout. Et Sean McVay, c'est assez drôle, là, je vous lis sa citation après tout ça. Il a dit « C'est le meilleur essai qu'on a vu. Je pense qu'il pourrait faire l'équipe.
» Ouais.
Futur membre du Centre de la Renommée, un des meilleurs joueurs défensifs des 20 dernières années dans la NFL.
Dans nos détails.
Leader incroyable. Ah ouais, ouais, je pense qu'il pourrait faire
l'équipe. Écoute, à quel point ça ferait juste rajouter à cette équipe de rêve-là Rams. Ça serait ça serait la série sur le Sunday d'Aaron Donald.
Parce qu'écoute, d'un bas, ben, tu vas avoir lui à l'intérieur. Ils sont allés chercher Myles Garrett pendant la saison morte.
C'est ça, fait, là.
Oui, je comprends que Donald est plus dans son prime. Puis bon, on verra si ça... C'est une question de temps, là, clairement, avant qu'il signe avec les Rams. Mais écoute, t'as Aaron Donald, puis t'as le meilleur joueur défensif de toute la ligue, Myles Garrett. T'as deux, peut-être des gars les plus dominants à leur position dans ce siècle,
exact,
qui jouaient sur la même équipe. on a été chercher quand même Trent McDuffie, un excellent demi-défensif des Chiefs de Kansas City, l'attaque des Rams. Même pas besoin d'en parler, c'est des joueurs vedettes partout. C'est une super équipe.
Ouais.
Dans la NFL, par contre, c'est pas parce que t'es une super équipe que ça va donner de quoi de super.
C'est
le football. On sait jamais ce qui peut se passer, les blessures, si ça, mais sur papier, ça semble être incroyable ce que les Rams sont en train de bâtir.
Ouais, exactement. Il y a aussi les tempéraments qui rentrent là-dedans. On sait pourquoi Nakua, des fois, peut...
Oui, ben, quand on parle de... entièrement, t'as raison.
Faire attention à ça, mais effectivement, là, tu sais... Ça va être à Sean McVay, en fait, de créer une stabilité au sein de cet alignement-là, parce qu'en ce moment, il y a tous les outils pour se rendre jusqu'au bout. Là. Puis ça peut être facile aussi, là. C'est juste qu'il faut que, justement, on prenne en considération toutes les distractions à l'extérieur de ça. J'ai bien hâte de suivre la saison des Rams, honnêtement, parce que c'est le fun.
Ils deviennent un petit peu les vilains de la NFL.
Ouais.
C'est comme, oh, ben là, ils sont trop bons, on les déteste. Mm. C'est en train de devenir ça, un petit peu comme ce que les Chiefs peut-être étaient il y a quelques années. Je sais que les Rams ont pas gagné un Super Bowl depuis 5 ans, mais quand même, ils vont être les grands favoris. Un peu plus tôt cette semaine... On avait fait un palmarès des nouveaux coachs qui ont le plus de pression sur leurs épaules. Là, je veux qu'on fasse un petit peu la même chose, mais avec des coachs qui sont pas nouveaux. Des gars qui sont là depuis peut-être quelques années. Ceux dont le siège, là, commence à être pas mal chaud.
J'adore.
Pour pas dire brûlant. Pour pas dire qu'il pourrait se faire mettre dehors assez tôt dans la saison. On commence avec un gars que certains se demandent comment il a réussi à garder son poste. Aaron Glenn, entraîneur-chef des Jets de New York. Ça a été une saison épouvantable pour les Jets l'an passé. Ils ont fini 3-14. Puis Aaron Glenn, lui, auparavant, c'était le coordonnateur défensif des Lions de Détroit. Fait qu'il a été amené avec les Jets. C'est un gars qui est défensif. C'était un gars qui était supposé un petit peu redresser la barre d'un point de vue défensif pour les Jets. Ils ont accordé au-dessus de 500 points. Et sur 17 matchs pendant la saison, ils ont juste provoqué 4 virements. Ça, c'est un record.
Ça a aucun sens.
C'est terrible.
C'est terrible. Puis il y a même des gens qui se demandaient. En fait, ils sont surpris de voir Aaron Glenn encore là. Parce qu'on pensait déjà qu'il allait être parti.
C'était tellement
avant.
Pourri qu'on se disait, c'est sûr qu'ils vont pas le garder.
Exact. Non, ça, c'est
la barre est basse, mais en plus, son équipe, elle n'est pas nécessairement améliorée. J'ai de la misère à voir comment il va être capable de redresser la situation. Puis là, ça commence à être triste. Les Jets, là, 15 saisons sans éliminatoire, eux, ils s'échangeaient le record avec les Sabres. Parce que les Sabres étaient rendus à 14.
Ouais.
Fait qu'on va dire, quand les Jets atteignaient 14, les Sabres ratent les séries, ils se rendaient à 14. Ou quand les Jets étaient rendus à 10, les Sabres ratent les séries, ils se rendaient à 10.
C'est ça.
Fait qu'au moins, ils étaient deux à avoir ce record de médiocrité-là. Là, ils sont tout seuls.
Ouais.
Puis je vous le dis tout de suite, ils sont pas prêts de faire les séries, là. Les Jets de New York sont à au moins 2-3 ans minimum de les faire.
C'est fou, hein.
Tu vas devoir te trouver un carrière en premier. Ah, je me sens vraiment mal.
Ouais,
les fans des Jets.
Je pense pas que c'est Geno Smith qui va. Tu vas sauver cette organisation-là.
Non, exactement. Un autre gars qui, pour moi, aura beaucoup de pression, je sais pas si c'est au point qu'il pourrait perdre son emploi, quoique ça dépend de la façon dont la saison va se dérouler, c'est Nick Sirianni, entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie. Les Eagles qui défendaient quand même leur titre du Super Bowl l'an passé, et ça a été une saison hyper décevante. Oui, ils ont quand même réussi à gagner la division. Oui, ils ont fait les éliminatoires, mais on n'a jamais senti que les Eagles étaient aussi dangereux qu'ils l'étaient par le passé. Leur attaque avait de la misère à avancer le ballon. Saquon Barkley n'était plus l'ombre de lui-même. T'avais de la bisbille avec A.J. Brown, avec Jalen Hurts, tout ça. On remet beaucoup en question l'emploi de Nick Sirianni avec les Eagles. On le sait, le marché de Philadelphie, avec les médias, avec les partisans, ça peut être explosif. Ça, c'est un gars que si jamais les Eagles déçoivent un petit peu encore cette année, disons, ils gagnent pas la division, puis ils font les éliminatoires, mais ils se font sortir rapidement, ça pourrait peut-être lui coûter son poste.
Ouais, exactement, mais lorsque tu atteins autant de finales du Super Bowl, lorsque tu remportes un Super Bowl, mine de rien, t'as tout le temps des attentes qui sont élevées. Nick Sirianni, on l'a dit, tu sais, c'est peut-être pas l'entraîneur avec le plus grand impact. Il y a souvent eu le discours que Sirianni était un peu l'entraîneur vitrine. Le bon entraîneur,
oui, parce que c'est
qui
pas
prenait pas les décisions.
Exactement. C'est pas celui qui sélectionne les jeux en attaque. Lui,
exact.
C'est plus le gars, il motive les troupes, et après ça, pendant le match, il fait plus grand-chose.
C'est ça, exact. Donc, avec une attaque qui a pas nécessairement eu d'identité là, au cours de la dernière année, Jalen Hurts, finalement, on a découvert qu'il y avait un petit peu plus de défauts à son jeu. On a trouvé un
il
peu des
limité.
Failles. Il est très limité. Ben, ça fait en sorte justement que en ce moment on fait face à une réalité du côté des Eagles. C'est sûr que si Saquon est capable de retrouver son mojo, ça va aider.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi qu'on va être très strict à ce niveau-là parce que c'est pas normal qu'avec la réputation de l'équipe des dernières années, qu'on soit pas capable d'atteindre un certain standard de succès. Tu sais, l'équipe elle a pas nécessairement changé. On a perdu un deux joueurs, mais that's it, là. T'sais.
Un autre entraîneur qui pourrait être sur la sellette, selon moi, c'est Zach Taylor avec les Bengals. Ben, vous le savez, moi, je suis un fan des Bengals, puis je comprends pas comment Zach Taylor était capable de garder sa job toutes ces années-là. Il va être rendu à sa 8e année avec les Bengals. Il a juste fait 2 fois les éliminatoires, malgré le fait que il a coaché Joe Burrow pendant pratiquement tout son règne. C'est inacceptable. Puis je comprends qu'il y a des choses qui sont hors de son contrôle, les blessures notamment. Mais à un moment donné, assez, c'est assez. Avec le talent qu'ils ont d'un point de vue offensif, les Bengals doivent faire mieux. Les attentes sont élevées cette année à Cincinnati. S'ils font pas les éliminatoires, j'ose espérer que ça va être enfin la fin pour Zach Taylor. C'est un coach qui est correct, là. T'sais, il les a quand même amenés au Super Bowl.
Ouais.
Tu peux pas y enlever ça. Mais c'est inacceptable la façon dont cette équipe-là, elle vit des déconfitures à chaque année, puis elle se fait remonter, puis la défense qui est hyper poreuse. Faut que tu fasses mieux.
Ouais, exactement. Tu dois resserrer ça. Puis à la tête, t'as des armes aussi. Joe Burrow, tu l'as dit hier, c'est un des gars qui peut changer une franchise à lui tout seul, qui peut supporter une équipe à lui tout seul lorsqu'il est motivé, lorsqu'il est bien entouré. C'est le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de grandes personnalités, Jamar Chase étant probablement le suspect numéro un là-dedans. Mais ça va être de voir aussi comment qu'on va être capable de capitaliser avec la perte d'Hendrickson, puis de voir aussi comment on va se rendre. Mais oui, effectivement, mais la division est à portée de main là, pour les Bengals de cette année. On est capable de se rendre.
Ouais, je pense que oui, ça va être entre eux et les Ravens. Et en terminant, Todd Bowles, lui, il risque d'être le premier à perdre son emploi. L'entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, son siège est brûlant, là. Peut-être même en feu, celui de Todd Bowles. Ça a été une déconfiture à la fin de l'année passée pour les Buccaneers. Ils ont fini en perdant 7 de leurs 9 derniers matchs. C'est inacceptable quand tu avais si bien commencé. Lui aussi, c'est supposé être un gars défensif comme Aaron Glenn. Puis la défense des Bucs ne fait que s'empirer en ce moment. Je ne m'attends pas à ce que ça dure très longtemps, là, surtout avec Baker Mayfield et Vita Vea qui ne sont pas contents. Et pour le moment, on y va du Sport Flash avec Hugo Reich.
Sport Flash.
Ouais, donc ça va pas bien à l'Omnium Banque Nationale. Félix Auger-Aliassime a abandonné. Il a été incommodé par une blessure au dos avant son match. Il ne fait même pas servir l'après-midi avant le match. Là, il l'avait dit en conférence de presse. Il trouve que ça a été une décision dure à prendre, mais que c'était la bonne décision à faire. Il était quand même la deuxième tête de série de ce tournoi-là. Donc c'est décevant pour Félix. On espère qu'il va se rétablir rapidement. Par contre, Leilani Fernandez, elle son parcours se poursuit. Elle s'en va au deuxième tour. Elle a battu la Mexicaine Renata Zarazua en deux manches identiques de 6-2. Elle va affronter Mira Andreeva demain. Donc au troisième tour. Donc ce sera à suivre. À la Coupe Lincoln-Duretsky, le Canada a vaincu la Suède de 7-4. Fini sa phase de groupe avec une fiche de 3-0 et, attache ta tuque, Ali, 20 buts marqués. Hein? Quand même. 20 buts en 3 matchs. C'est assez impressionnant, merci. Victoire de 7-1 contre la Suisse, 6-1 contre la Slovaquie, maintenant 7-4 contre la Suède. Ça va très bien du côté du Canada. Liam Pugh encore inscrit un but dans un troisième match de suite. Alexis Joseph, lui aussi, s'est inscrit au pointage en fin de rencontre en avantage numérique. Et grâce à ça, le Canada s'assure du sommet du groupe A et va affronter la Finlande en demi-finale.
Merci beaucoup, Hugo. Après la pause, c'est les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien depuis des 2000. Il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons, et après la pause, c'est un moment historique. Ça a été célébré de la bonne façon et on en parle dans 2 minutes.
MAP Hydration, la boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer, récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com.
Allô?
Marie-Lou, toi qui es porte-parole, j'imagine que tu peux avoir des bons prix sur une Hyundai neuve.
Ah, c'est sûr, surtout pendant l'événement Repartez en Hyundai.
Ah, mais qu'est-ce que tu pourrais m'avoir?
Ben, jusqu'au 31 août, je peux t'avoir aucun paiement pendant 90 jours sur l'Elantra ou le Venue, un financement à partir de 0,99%, un boni jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné et la garantie limitée sur les véhicules neufs de 5 ans.
OK, t'es vraiment une chum.
Ouais, c'est un peu pour tout le monde, par contre. Hein? Des conditions s'appliquent? Visitez HyundaiCanada.com.
Salut, c'est JC. Je vous l'ai déjà dit, la référence en portes et fenêtres au Québec, c'est Abritech. Une entreprise d'ici, des produits qui durent, puis des gens vrais. Chez Abritech, on se défile jamais. La qualité garantie et le service aussi. Pour des réponses claires, passez donc voir leurs experts. Près des gens depuis 80 ans, Abritech, une valeur sûre. Trouvez rapidement votre détaillant au abritech.ca.
Les entreprises peuvent expédier à Villeray et Rosemont et Petite-Bourgogne et Hochelaga et Anjouet, Côte-des-Neiges, Verdun et Hennecy et Pointe-Saint-Charles et Le Plateau et Delors-des-Ormeaux et La Chenée, Outremont et Dorval à partir de seulement $3.96. Découvrez notre nouveau tarif quotidien le plus bas jamais offert aux entreprises. Expédié localement à Montréal à partir de seulement $3.96 avec Poste Canada. Découvrez comment votre entreprise peut expédier et économiser à postecanada.ca/meilleur tarif Montréal. Des conditions s'appliquent.
Salut, c'est Dezo. Venez passer un week-end de baseball à Toronto avec Voyage Gendron les 15 et 16 août. On ira voir les Blue Jays affronter les Yankees avec tout ce qu'il te faut pour profiter du match. Le forfait à partir de $465 par personne en occupation double. Inclut transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, un petit déjeuner et ton billet pour la partie. Ne manque pas cette escapade sportive. Va sur gendrontour.com.
Jusqu'à 10 heures, fais partie du club. De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Le club du matin, sur BPM Sport.
Les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien à tous les jours, à cette heure-ci, on revient sur un moment qui a marqué l'histoire de l'équipe dans les 26 dernières années. Le vendredi, avec toutes les équipes, avec tous les moments dont on a parlé pendant la semaine, on va voter pour un finaliste à la fin de l'été. On va déterminer c'est quoi le grand moment marquant du Canadien depuis 2000. On y va avec le moment du jour.
Bouncing puck in front, Camilleri shoots, he scores! The Canadiens come back in a hurry and Boston's on a change. Camilleri's pass was tipped. Glenn Metropolitan has Camilleri in front. Now he'll go after the puck on the boards. An accidental pass, Camilleri scores! They're trying to serenade the Bruins goodbye. Ways to go, yet though. Camilleri shoots, he scores! Hat-trick, Mike Camilleri!
Le 4 décembre 2009, c'était le match du centenaire du Canadien de Montréal qui recevait les Bruins de Boston au Centre Bell. Et l'occasion, elle a été célébrée de la meilleure des façons. Une cérémonie de 1h30 avant la rencontre. Les chandails de Elmer Lack et Butch Bouchard qui ont été retirés. Le Canadien bat les Bruins 5-1. Tour du chapeau pour Mike Camilleri. 37 arrêts pour Carey Price. Ça a été une année complète de célébration, le centenaire du Canadien. Et ce match-là, ben, ça a été un petit peu l'emblème de toutes ces célébrations.
Ouais, exactement. On savait que c'était une grande cérémonie. On retire le chandail de deux des grands. D'ailleurs, je me souviens à ce moment-là, Ryan O'Byrne, qui portait le numéro 3 avec le Canadien, avait changé son numéro pour le numéro 20. Et l'avait comme changé devant Butch Bouchard. En tout cas, c'était vraiment un peu bizarre. Mais effectivement, t'sais, on peut dire qu'est-ce qu'on veut sur le travail de Bob Gainey. On savait que l'année 2009 du Canadien de Montréal est une année spéciale.
Ouais.
Il a voulu pousser en cette direction-là pour qu'il y ait une équipe qui gagne, qui connaisse du succès. Et dans ces années-là, Mike Camilleri a fait partie de ça, mm-hmm. a été électrisant. Et encore une fois, ça a été un match parfait, une soirée parfaite pour célébrer le centenaire du Canadien face aux Bruins en plus. Jeune Carey Price dans les buts. Tout marchait. C'était vraiment, vraiment émotif. Moi, je me souviens de ça comme c'était hier. Là.
Ouais, Bob Gainey, ça n'était pas caché. Avec le centenaire du Canadien, il voulait faire un splash. Il voulait vraiment y aller le tout pour le tout, bâtir la meilleure équipe possible. Puis, on a comme un peu triché. Là. C'est comme si le Canadien, son centenaire a été célébré sur 2 ans. T'as eu 2008-2009, puis 2009-2010, vu
un
que
petit
c'est
peu, ouais,
2009, là, l'année de célébration. Fait qu'en 2008-2009, il s'était essayé sur Matt Sundin. A signé Robert Lang. Acquisition de Alex Tanguay et Georges Larac, Matthew Schneider, à la date limite des échanges. Sauf que ça avait été super décevant. Fait qu'il a dit, bon, ça n'a pas marché. Je vais me réessayer. Je vais changer l'équipe au complet. Fait que là, pour la saison 2009-2010, Koivu, Kovalev, Komissarek, Kostopoulos, Schneider, Tanguay, Lang et Bouillon partent. Chris Higgins et Ryan McDonough sont échangés. C'est une transaction qui hante encore le Canadien. Pour Scott Gomez, qui convainc Mike Camilleri et Brian Gionta, ses deux chums, de se joindre à l'équipe. Al Gill, Yaroslav Spacek et Travis Moen aussi. Il a comme essayé de couper les coins ronds un petit peu avec une équipe qui était très, très, très limitée.
Ouais.
Certains pourraient dire que ça a marché parce qu'ils sont rendus jusqu'au carré d'as en 2010, mais
t'as pas
je pense que c'est un peu
là.
Par accident. Là.
Ouais, exactement, exactement. Merci, Yaroslav Halak, mais tu sais, ça a été, c'est ça. Je me souviens de ça. Tu sais, Scott Gomez, on a donné beaucoup, mais les gens étaient quand même optimistes parce qu'à la fin de sa première année, il a quand même obtenu 60 points ou proche de 70 points. Là. Donc, ça a été, oui, une baisse de régime, mais quand même, on. Avec le support offensif de Mike Camilleri, Brian Gionta, qui au final est devenu un des capitaines de l'organisation par la suite, il y a eu quand même ce trio-là qui a été quand même bénéfique pour l'équipe. Certains à plus court terme, certains à plus long terme.
Ben, Scott Gomez, je suis pas sûr qu'il a été tant bénéfique que
ben,
ça.
Un an. Dès qu'il a changé de numéro, ça a pas bien été. Dès qu'il a passé du 91 au 11,
écoute,
ça s'est terminé.
Oui, un an, mais genre un an plus tard... Il y a eu sa séquence de 1 an sans marquer aussi.
Ben, c'est ça, c'est ça. T'sais, ça a été l'histoire d'une saison.
Il y avait un contrat atroce.
Ouais, 7 millions par année. On n'en reparlera pas. Mais oui, effectivement, Scott Gomez, ça a été juste l'histoire d'un an. Mais tu sais, Travis Moen, finalement, a roulé sa bosse à Montréal, à Ardil aussi.
Ouais.
Mais quand même, on sentait que pour les départs des joueurs importants de cette époque-là, c'était pas assez. Là.
Non, exactement.
Ça a été très, très, très chanceux. Mais effectivement, je me souviens d'ailleurs de Robert Lang qui marque un tour de chapeau dans le chandail Barber.
Ben oui, mais ça, c'était. T'as raison que ça, c'était cool. pour l'année du centenaire, parce que oui, il y a eu cette journée-là, là, le 4 décembre, que ça avait été une célébration. Mais sur tout le 1 an, il y avait tellement d'affaires. Les chandails différents, les ouais. vieux chandails
ouais, ça, c'est tout.
Qu'on a ramenés pour quelques rencontres. Tu as eu le match des étoiles qui a eu lieu à Montréal, le repêchage aussi.
Ouais.
Ils ont inauguré le fameux anneau d'honneur autour ouais. du Centre Bell, où tu as les joueurs qui sont membres du Temple de la Renommée, qui ont joué pour le Canadien, qui sont présents, les chandails spéciaux. C'est là qu'on a inauguré la première patinoire bleu-blanc-bouge. On a nommé l'avenue des Canadiens devant le Centre Bell.
Ouais.
Tu avais une tonne d'ouvrages, là, des livres, des magazines qui sont parus. C'était hot comme période.
Ouais, Upper Deck avait fait un
ah oui,
paquet de cartes centenaire du Canadien. Ouais. Ouais, ça c'est cool aussi. Ouais.
Ah non, parce que moi j'ai commencé à suivre le hockey pas mal dans cette période-là, fait que c'était comme incroyable. C'était ouais, du bonbon.
C'était bon moment.
Je pouvais mettre la main sur tellement de magazines, puis de jeux de cartes, puis d'ici, puis de ça, puis de livres, que là je tripais.
Ouais.
Mais je me dis des fois, les fameux chandails, le barber, le ouais. vert.
Ouais.
Est-ce que t'es pour ou t'es contre que les Canadiens le ramènent une fois de temps en temps?
Non, une fois de temps en temps, pourquoi pas? Ça fait partie de l'histoire. Je trouve ça cool. Puis moi, écoute, c'est arrivé une couple de fois que on enregistre l'épingle puis que Jean-Maxime Sans Souci le porte fièrement ce chandail-là. Moi, honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, je le trouve quand même relativement beau.
Ouais. Moi, j'aimais le rouge avec la feuille verte.
Ouais, ouais, ouais.
Je sais que ça fait un peu Maple Leaf, c'est à cause de la feuille, là.
Mais c'était particulier. Il était oui. vraiment beau, ce chandail-là, ouais. honnêtement.
Le CAC aussi était
ouais.
beau.
Puis c'est ça. Puis, tu sais, le Canadien a quand même bien fait de revamper ces chandails-là. Il a fait un excellent travail. Moi, je les ai trouvés tous beaux cette année-là. Avec le branding.
Même le barbershop.
Même le barbershop faisait partie de ça.
Tu sais, une fois par année, là.
Pourquoi
pas le ramener? Chacun, tu sais, tu ramènes chacun les chandails une fois.
Exact.
Tu vas en vendre. Fait que tu vas faire du cash.
C'est sûr. Puis, tu sais. Je pense que vous pouvez parler à n'importe qui. Même le chandail de la classique hivernale en 2015, tout le monde a trippé. Là. Le blanc là avec le chandail du Canadien, avec la planète oui. sur la main, il était super beau lui aussi. Je pense que les gens veulent une variante des chandails du Canadien.
Mais l'équipe est très traditionnaliste par rapport à
exact.
Ça.
C'est comme, est-ce que vous allez voir les Yankees avoir un chandail alternatif? Jamais.
Jamais.
C'est ça qui arrive. Mais effectivement, ça a fait place à beaucoup d'opportunités de marketing, mais aussi aux anciens partisans de revivre des émotions vraiment, vraiment spéciales. D'ailleurs, cette journée-là, où, je sais pas si c'était cette journée-là ou proche de là, il y avait eu, tu te souviens, deux équipes d'anciens du Canadien qui avaient pris la glace en même temps. Patrick Roy était en une forme, ouais. Ken Dryden était en une forme.
Mais là, tu me rappelles, Hugo, mon moment préféré de l'histoire du hockey. Tu sais de quoi je parle.
Ouais, ouais.
Le 75e anniversaire du Canadien.
Ouais.
Quand Aurel Jaliat saute sur la glace.
Ouais.
Béret, 95 ans,
ouais,
genre.
Ouais, il était vieux.
Et malheureusement, il trébuche.
Ouais.
Vous irez voir ça sur YouTube. C'est une de mes séquences préférées. Ouais. Là, c'est quand le Canadien célébrait son 75e anniversaire. Fait que 1984, quelque chose de même.
Ouais, ça a été particulier.
Pas sûr que l'idée était si bonne de
Non, mais en même temps, on essaie de faire de quoi, mais
exactement.
Effectivement.
Puis c'était cute, comme
moi. C'était cute. C'était cute. Il a marqué un but, au final.
Exactement. C'est ce qui compte.
Et voilà.
On va prendre une pause au retour. C'est le dugout. Toute une remontée pour les Blue Jays de Toronto. Hier, on a aussi eu droit à un duel épique entre les deux favoris pour le titre de joueur le plus utile dans la nationale. Il y a une citation de Kevin Gausman qui a envoyé une flèche à l'endroit des Blue Jays qui fait énormément jaser. On parle de tout ça dans deux minutes.
Expérience Mata. À seulement une heure de Montréal, notre parcours figure parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au expériencemata.ca.
Une vraie bonne offre, c'est beaucoup plus qu'un rabais. C'est les gens qui sont derrière.
Pendant les prix employés Ford, c'est plus de 7000 employés de Ford du Canada, dont Mathieu, qui sont fiers de partager le fruit de leur travail avec vous à prix très avantageux. Mais ça veut dire quoi ça au juste, Mathieu?
C'est le prix qu'on paye toute l'année et en ce moment, vous payez ce que nous payons.
Obtenez jusqu'à 13 625 $ en ajustement de prix totaux sur les F-150 2026 Power Boost hybride admissible. Visitez votre détaillant Ford du Québec ou Ford.ca dès aujourd'hui.
Salut, c'est Tony! Prêt pour une expérience mémorable à New York avec Voyage Gendron du 21 au 23 août?
On ira voir les Blue Jays contre les Yankees et découvrir la grosse pomme.
Le forfait à partir de 695 $ par personne en occupation double comprend
transport en autocar de luxe, deux nuits d'hébergement,
deux petits déjeuners, ton billet pour la partie,
tour de ville guidé et du temps libre pour explorer New York.
C'est l'aventure parfaite pour les amateurs de sport. Va sur gendrontour.com.
La 5G rapide et abordable, c'est chez Koudo. Pourquoi vous contenter de moins? Obtenez le forfait 5G qui vous convient, plus un extra sans frais comme l'itinérance Voyager connecté pour 3 jours par mois. Passez à la joie, passez à Koudo!
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Le 15 août, à 19h30, on se retrouve au stade Saputo. Le CF Montréal reçoit le DC United. Notre équipe, notre ville, notre match. Viens vivre l'émotion en direct des gradins. Billets disponibles au cfmontréal.com.
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1 $ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participant, taxe en su, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Démarrez l'été avec les capacités de calibre professionnel d'un nouveau GMC. Pendant l'événement Prix des employés pour vous, profitez du prix employé sur certains nouveaux modèles GMC pour propulser vos aventures. Visitez votre concessionnaire GMC dès aujourd'hui.
C'est la circulaire chez Mondou. Et jusqu'au 12 août seulement, achetez la nouvelle litière légère Litter Genie et recevez gratuitement la poubelle à litière Litter Genie Easy Roll. Faites vite. Cette offre est seulement chez Mondou. Détails en magasin et au mondou.com.
Fais partie du club. Le club du matin. Jusqu'à 10h sur BPM Sport. Dans le dugout.
Les Blue Jays qui ont terminé leur série face aux Astros de la meilleure des façons hier, ça a été une très belle remontée pour Toronto. Ça a peut-être un petit peu moins bien commencé le match, mais un double de Miles Straw en sixième manche a complètement renversé la vapeur, Hugo.
Ouais, écoute, les Blue Jays étaient complètement nivelés par la sortie de Hunter Brown. Brown qui est un des meilleurs lanceurs du baseball majeur du côté des Astros. Mais hier, on a eu un avant-goût, ben pas un avant-goût, mais un peu un goût des Blue Jays de l'an dernier. Mm-hmm. Donc, on est capable de se remonter les manches, on est capable d'aller chercher beaucoup de succès en fin de partie, en frappant. Et là, je dois dire de quoi, Miles Straw, là, ça fait comme 2 semaines qu'il est vraiment sensationnel. Ouais. Il frappe pour quasiment 300 dans les 2 dernières semaines, et c'est pas un gars qui est reconnu pour son bâton. Il est plus reconnu pour sa vitesse et ses prouesses défensives. Mais là, c'est lui qui part le balle en sixième manche. Et après ça, ça a suivi. Il y a quasiment Okamoto qui l'a fait rentrer. Après ça, Jesus Sanchez qui frappe un circuit. Ernie Clement par la suite en fin de partie pour donner l'avance aux Jays. Écoute, tout s'est mis en ordre pour les Blue Jays offensivement. Et encore une fois, malgré notre taux nombre de coups sûrs durant la partie, 5, on a été capable de capitaliser en inscrivant 5 points. Ça, c'est très, très, très important. C'est ce qui a fait la qualité des Blue Jays l'an dernier, c'est qu'on était opportunistes. Et c'est exactement ça qui s'est passé, même défensivement. On a regardé la dernière séquence du match ensemble quand Yordan Alvarez frappe son coup sûr.
Ça, c'est une erreur bête quand même. En prolongation, en plus.
Yordan Alvarez qui frappe un double, qui amène ça à 5-4, mais qui décide de ne pas glisser au deuxième but et non seulement ne glisse pas, rate le but, mais même pas le pied sur le but.
Son pied est à peu près à 1 ou 2 pouces
ouais,
du but.
Exactement. Et Andrés Giménez, qui est très intelligent défensivement, qui fait juste attribuer le tag sur lui, fin de la partie. Écoute, je pense que Yordan Alvarez aimerait ça revoir cette séquence-là.
Ouais.
Mais tout de même, on a été capable de solidifier le tout en fin de partie. Chase Lee qui a obtenu son premier sauvetage en carrière. Louis Varland qui a été solide. Et en plus de tout ça, ben, ça a été la première sortie de Jameson Taillon avec son nouvel uniforme. C'était seulement le 7e lanceur canadien de l'histoire à avoir un départ pour les Blue Jays. Et écoute, il a été correct. Mm-hmm. Sans plus. 4 manches lancées, 6 coups sûrs, 4 points mérités, 2 buts sur balle, 4 retraits sur des prises et accordé un long à Jose Altuve. Ça arrive. Ça a été la question d'une manche. En troisième manche, c'est là que ça a été le plus difficile pour Taillon. Par la suite, on s'est quand même bien ressaisi en fin de quatrième. Donc, les Blue Jays ont réussi à...